Ici l'Europe, Anissa El-Jabri, Audrey Racine.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe sur France 24 et RFI. Les groupes européens choisissent en vue des élections de mai prochain leurs Spitzenkandidaten, les têtes de liste candidats à la présidence de la Commission européenne. Notre invité est le Finlandais Alexander Stubb, candidat à la candidature pour le Parti populaire européen.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Lors du congrès du PPE début novembre, vous allez affronter l'Allemand Manfred Weber pour l'investiture. D'abord, votre portrait avec Anissa.
Alors, vous avez 50 ans, 8 ans d'expérience gouvernementale au compteur, hein, affaires étrangères, affaires européennes, finances, chef de gouvernement. Vous parlez anglais, allemand et français couramment. Vous avez fait, c'est vrai, une partie de vos études à la Sorbonne, eurodéputé pendant 4 ans, conseiller à la Commission Prodi. Vous êtes connu sur la scène européenne. Vous vous y présentez comme un candidat plutôt de centre-droit, alors qu'en Finlande, on vous considère plutôt comme un libéral. Alors aujourd'hui, vous êtes vice-président de la Banque européenne d'investissement. Enfin, en ce moment, vous êtes en congé puisque vous parcourez l'Europe pour faire campagne. Un marathon, en fait, c'est plutôt un autre à votre palmarès. On le sait, vous êtes un triathlète. D'ailleurs, c'est un peu difficile d'y échapper puisque vous partagez ces images de médailles sur les réseaux sociaux. Votre prochaine ligne d'arrivée, c'est donc Helsinki, à domicile. C'est là que se tiendra le congrès du Parti populaire européen.
Alors, vous voulez représenter la droite européenne. Quelle droite ?
C'est un centre-droite. Centre-droite modéré, centre-droite qui est pro-européen, qui essaye de trouver des solutions, qui essaye de donner un agenda très positif. C'est mon centre-droite.
Vous êtes face à Manfred Weber, l'Allemand Manfred Weber. Qu'est-ce qui vous différencie de lui ? Est-ce que vous avez des conceptions différentes de votre projet pour la droite européenne ?
Bon, je crois que notre carrière est un peu différente. On a commencé dans le Parlement européen en 2004 ensemble, et puis 2008, il a continué. Moi, je suis venu ministre des Affaires étrangères. J'étais dans le gouvernement 8 ans. Il est peut-être un peu plus centre-droite conservateur dans la question de valeurs, parce qu'il vient de Bayern, bavard. Moi, je suis peut-être un peu plus centre-droite modérate, gauche, on peut dire, libérale. Donc, il y a une différence sur cette question. Mais surtout l'expérience.
Alors, votre rival, Manfred Weber, dont vous venez un petit peu de parler, il est déjà chef du groupe parlementaire PPE au Parlement européen. On a déjà pu le voir, la course a quand même commencé. Il a le soutien de beaucoup de partis, celui de l'Allemagne, c'est beaucoup de voix. Comment vous pensez peut-être pouvoir vous imposer face à lui ?
Oui, vous avez raison. C'est un peu comme un match de foot entre l'Allemagne et la Finlande. J'espère que ce sera le hockey sur glace ou quelque chose. Mais heureusement, c'est pas contre les Bleus. Donc, si c'était le cas, on n'a pas de chance. Ce sera difficile, c'est clair, parce que je viens d'un petit pays. On n'a que 16 voix dans le congrès d'Helsinki. Les Allemands déjà 86. J'espère que mon expérience va aider, mais c'est clair que si la chancelière pose la question, est-ce que vous pouvez soutenir mon candidat, M. Weber, c'est un peu difficile pour un chef d'État de dire non.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous vouliez représenter le centre-droit. On vous a souvent présenté comme le candidat à la Macron au sein du PPE. Est-ce que vous partagez avec le président français sa vision d'un clivage à l'échelle européenne entre les populistes et les progressistes ?
Non, pas exactement. À mon avis, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. Et si on donne un portrait d'un clivage pour ou contre, c'est trop facile. Oui, il y a une question de globalistes et de localistes. Oui, il y a une question de nationalistes et d'internationalistes. Mais à mon avis, il faut trouver un centre-droite modéré qui va pousser l'agenda. Il ne faut pas isoler les autres avec un discours qui pousse les autres à côté.
Mais alors, comment fixer cet agenda ? Comment se retrouver sur des priorités ? On a tous en tête cet épisode de septembre dernier. Le Parlement européen se prononce sur le vote de l'article 7. Je rappelle que l'article 7 des traités, c'est celui qui justifie qu'on doit déclencher des sanctions pour violation de l'état de droit. Donc le Parlement européen vote ces sanctions contre la Hongrie de Viktor Orban. Son parti, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, est toujours membre du Parti populaire européen. On a du mal un petit peu à comprendre, en fait, quelle est la logique ?
Bon, pour moi, c'est tout une question de valeur. Nous sommes dans une époque d'histoire européenne où on n'a pas de sécurité. Il y a un sang, on a peur de migration, on a peur de technologie, de l'avenir de l'emploi. Et il y a des gens qui essaient de pousser un agenda illibéral, c'est-à-dire la démocratie illibérale. Et M. Orban le fait, et je suis complètement contre cette façon de donner un discours de haine, de détester les autres. Et c'est pour ça que je viens de dire qu'il faut avoir un processus clair avec M. Orban dans notre parti. Premièrement, il faut discuter ouvertement avec lui. Deuxièmement, lui, il doit signer les valeurs de PPE. Et troisièmement, s'il ne signe pas, il doit sortir de notre parti. Pour moi, les valeurs sont les choses les plus importantes.
Mais des discussions avec Viktor Orban, il y en a énormément eu. Il y en a eu notamment en septembre dernier, au moment du vote. Certains eurodéputés, qui d'ailleurs voulaient se prononcer contre le déclenchement des sanctions, ont choisi de s'abstenir tellement ils ont trouvé Viktor Orban provoquant vis-à-vis de la droite européenne. Comment vous pouvez penser que cette fois-ci, ça va fonctionner ?
Moi, je suis toujours, espère que ça va fonctionner. Je suis un médiateur de paix. Donc, je trouve qu'il faut vraiment continuer de discuter avec lui. Mais pour moi, les valeurs sont binaires. Donc, s'il ne signait pas les valeurs de PPE, il doit sortir, aller dans un autre parti.
En même temps, il soutient Manfred Weber. Est-ce qu'on pourrait pas se dire à l'inverse que, du coup, c'est le PPE qui va s'organiser?
J'espère que non. Si Orban a me soutenir, en anglais, on dit kiss of death.
Le baiser de la mort.
Baiser de la mort.
Alors en ce moment, en Europe, ont lieu des consultations citoyennes. Dans chaque pays, un panel de personnes au profil très différent sont invitées à plancher sur des propositions de politique européenne. L'un de ces débats organisés par la représentation de la Commission en France s'est tenu récemment à Paris. Nos journalistes Caroline Decamaré et Anaïs Guérard y étaient.
Quelle décision l'Europe devrait-elle prendre aujourd'hui ?
L'Europe, de base, c'est bien, c'est bien en tête d'avoir une décision concrète, d'avoir des décisions.
Professeurs, vendeurs, interprètes, jeunes et moins jeunes, ce panel de 50 personnes a été choisi pour être représentatif de l'opinion française. Ils ont la journée pour accoucher de 12 propositions pour l'Union européenne.
C'est tellement compliqué de prendre des décisions à 27. Déjà en France, on a déjà dû. Nous, là, déjà, on est 50, on n'est pas tous d'accord sur toutes les décisions à prendre. Là, je ne sais même pas sur quoi on va aboutir. Bon, enfin, voilà, ce n'est pas évident. Hein.
On ne va pas vous dire que demain, la décision portée par un citoyen sera mise en œuvre. Par contre, vraiment, on a progressé énormément dans ce type de démarche. On a donc pour la première fois 27 États membres qui le font en même temps. On a toutes les institutions européennes qui sont impliquées.
Rapprocher l'Europe de ses citoyens, une façon de lutter contre l'abstentionnisme et contre la montée des partis eurosceptiques au sein de l'Union européenne.
Les élections européennes sont le moment où ce grand débat doit se focaliser, d'autant que en 2019, elles auront un relief particulier, puisque pour la première fois, il y aura vraiment un défi existentiel. Car il y a des femmes et des hommes, des partis politiques qui veulent détruire l'Europe telle qu'elle est. S'il n'y a pas, à côté de ça, des politiques européennes et des propositions qui font écho à ce que souhaite la population, les anti-européens auront beau jeu.
En France, 30 000 personnes se sont prêtées au jeu, mais cette initiative rencontre un succès timide, voire absent, dans les pays les plus eurosceptiques actuellement, ceux de Visegrad ou même l'Italie depuis les élections. Dans toute l'UE, ces débats prennent fin. Leurs conclusions seront livrées aux chefs d'État en décembre prochain. La consultation en ligne, elle, court toujours. Une oreille tendue vers les 450 millions de citoyens européens.
Alexander Stubb, est-ce que vous croyez à cet outil des consultations européennes pour en tout cas aider à combler ce fameux fossé entre l'Europe et ses citoyens ?
Oui, bien sûr. Il faut en discuter. Pour moi, l'Union, c'est une question, bien sûr, de tête, mais aussi de cœur. Il faut continuer de parler. C'est quelque chose qui est très important pour nous tous. Je crois que l'année 2016, avec Trump et Brexit, a bien souligné l'importance de l'Europe. Il faut continuer de discuter, consulter, trouver des solutions ensemble. C'est notre chose, l'Europe.
Hein. Jean-Claude Juncker parlait déjà de la précédente de la Commission. Il avait eu cette formule pour dire que c'était la Commission de la dernière chance. Est-ce que vous reprendriez cette formule, ce qualificatif pour le Parlement qui va être élu à la fin du mois de mai, avec ce risque très fort, en tout cas aujourd'hui, d'un vrai bloc anti-européen au Parlement ?
Je crois que c'est pas si dramatique, mais c'est clair qu'on va avoir un résultat qui est pas très clair. On a le vu dans les élections européennes un peu partout depuis la crise financière. La différence entre 2014, quand Jean-Claude Juncker a commencé, et maintenant, c'est qu'on a quand même géré deux crises très importantes. La première, c'était la crise d'euro, crise de finance, et le deuxième, c'était la crise migratoire. Maintenant, c'est plutôt une question d'administrer les deux. Mais on continue la bataille de cœur entre le libéral démocrate et l'illibéral en Europe.
Si les partis eurosceptiques remportent un bon score aux européennes, il y a quand même un risque de blocage de certaines politiques au niveau du Parlement européen.
Oui, c'est normal dans la vie politique, c'est comme ça. On a eu au niveau national pendant des années. Moi, je viens d'un pays où on a toujours des coalitions. De temps en temps, des coalitions difficiles, de temps en temps, des coalitions faciles. Par exemple, on a pris les populistes, les vrais Finlandais, dans notre gouvernement en 2015. J'étais là. Maintenant, ils sont heureusement morts et d'extérieur de la gouvernement. Mais oui, on a besoin de coalitions.
Vous avez gouverné avec eux. Quelle expérience vous tirez de ce gouvernement?
C'est une expérience intéressante parce que cette partie est venue avec trois promis. Le premier, c'était pas d'austérité. Deuxième, c'était pas de la monnaie pour la Grèce. Le troisième, pas d'immigration. Donc, dans l'été 2015, premièrement, on a eu un programme d'austérité énorme. Deuxièmement, on a donné de l'argent à la Grèce. Et le troisièmement, on a eu la crise migratoire. C'est pour ça que la popularité de cette partie est coupée en deux et maintenant, ils sont sortis de notre gouvernement.
Vous êtes partisan de la discipline budgétaire. Sur le budget italien, est-ce que la Commission devait le refuser au risque de provoquer une crise dans l'Eurogroupe?
Ça dépend un peu ce que ça provoque, mais à mon avis, la Commission doit faire son travail comme gardien de traité. C'est clair que la proposition italienne, ça va pas pour les autres pays. Si on a un échec budgétaire 2,4% pendant 3 ans, c'est 40 milliards plus de dettes par an, et à mon avis, c'est trop. Donc, il faut avoir une consultation avec les Italiens, mais je crois que les Italiens, le gouvernement italien va réagir après que les marchés fassent une réaction.
En attendant, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode, cette méthode de dire non? Parce qu'on voit que la Ligue utilise ce refus pour se renforcer, elle gagne chaque élection locale, elle grimpe dans les sondages en entamant ce bras de fer. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un piège là-dedans?
À mon avis, c'est une question de principe. Si on a des règles, il faut les soutenir, surtout quand l'économie va bien. Et à mon avis, il y a deux possibilités. La première, c'est pour la Commission de commencer la procédure. Elle a déjà fait. Le deuxième, c'est une réaction de marché. Et après les deux réactions, je crois que le gouvernement italien va aussi réagir. On ne peut pas utiliser des politiques fiscales pour détruire l'économie européenne.
On voit quand même que le bras de fer est assez tendu. On l'a vu à cette scène de cet eurodéputé qui a piétiné les notes du commissaire européen Pierre Moscovici. Il a mis 2-3 jours, il a finalement utilisé le terme de fasciste. Est-ce qu'il a eu raison d'utiliser ce terme?
Pas du tout. À mon avis, on a eu trois grandes idéologies pendant les dernières 100 ans en Europe. Le premier, c'était le fascisme, mort à 45. Deuxième, c'était le communisme, mort à 89. Et j'espère que la démocratie libérale n'a pas commencé de mourir en 2016. Donc, d'utiliser le terme fascisme, à mon avis, n'est pas correct.
En mai prochain, ce sera la première élection à 27 après le Brexit. Le président du Conseil européen revenait récemment sur ces négociations en cours et prévenait que le no deal était de plus en plus probable. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes?
Il y a toujours une inquiétude, mais je trouve que le travail fait par Michel Barnier est impeccable et je trouve qu'on va avoir une solution dans les négociations. Je crois qu'on ne va pas avoir un non-deal. Ça coûte trop pour le Royaume-Uni et trop pour l'Union européenne. Enfin, si on n'a pas de Brexit, ça va être les Britanniques qui vont le décider.
Sauf qu'au dernier Conseil européen, justement, les chefs d'État l'ont souligné, l'accord est prêt à 90-95%, mais la plupart d'entre eux disent que ça dépend en fait maintenant de la Grande-Bretagne. C'est à Theresa May de régler son problème de politique intérieure. Est-ce que vous partagez cette analyse et qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là?
Oui, je partage l'analyse. C'est à Theresa May de le régler. Mais à mon avis, ça donne une évidence de paradoxe de Brexit. C'est une proposition quasiment impossible. On est complètement intégré. Et à mon avis, d'être contre l'Union européenne ou sortir de l'Union européenne, c'est un peu comme sortir de l'Internet. On peut le faire si on veut, mais il faut mieux peut-être essayer de changer.
Alors, si vous étiez président de la Commission européenne d'une Europe à 27, quelle serait votre priorité dans les nouvelles relations à construire avec cette Grande-Bretagne hors Union ?
À mon avis, il faut avoir les Britanniques très proches de l'Union européenne. Quand même, ça va être notre
part. Sur les échanges, sur les transports ?
Surtout qu'on peut. Hein. On commence dans trois phases. La première, c'est la négociation d'exit, Brexit. Deuxième, c'est la phase transitoire. Le troisième, c'est la nouvelle relation. Et puis là, il faut avoir une relation stratégique très proche.
Vous pensez à la défense, à la politique internationale?
Défense, sécurité, politique internationale. Il faut quand même souvenir que c'est un pays très important dans l'ONU, sécurité, dans l'OTAN, nucléaire, donc dans la lutte contre le terrorisme. Donc il faut pas jeter les Britanniques de l'Europe.
Hein. Dans votre lettre de candidature, vous le dites justement que l'Europe doit prendre plus de responsabilités sur la scène mondiale. Vous pointez notamment ce risque dont on a déjà beaucoup parlé, une forme de retrait des États-Unis. Comment c'est vraiment possible ? On voit sur un dossier relativement simple, sanctions ou pas vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, Paris et Berlin n'arrivent même pas à parler d'une seule voix.
Enfin, je crois qu'ils vont parler dans la même voix. Par exemple, avec les sanctions, avec les Russes, on était très unis. Donc c'est toujours un peu difficile quand on parle de relations d'extérieur. Mais à mon avis, les États-Unis sont en train de se détacher de la monde, de la politique internationale. Et c'est-à-dire qu'il y aura de l'espace pour l'Europe à réagir sur les questions de valeur, sur les questions numériques, sur les questions le commerce, sur les questions de sécurité. À mon avis, maintenant, c'est le moment pour l'Europe de agir.
Mais il y a la place, mais est-ce que l'Europe aura les moyens de parler d'une seule voix?
Oui, j'espère que dans l'avenir, oui. C'est clair que c'est de temps en temps difficile, mais peut-être c'est un peu plus facile après que les Britanniques sortent, parce qu'on a besoin quand même un leadership. Peut-être c'est le couple franco-allemand qui va le faire.
Alors justement, sur ce couple franco-allemand, Angela Merkel a ouvert sa succession. Pour beaucoup d'observateurs, on va avoir une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le pays sera concentré sur la succession de la chancelière, sur ses débats politiques internes. On dit même que jamais la grande coalition n'a été autant en danger, qu'on pourra avoir des élections anticipées. Est-ce que ce fameux leadership allemand, aujourd'hui, n'est pas tout simplement très très en panne?
C'est un peu différent que c'était la semaine dernière, c'est clair, ou avant les élections en Bavarie ou à Hessen. Mais je trouve que chancelier Merkel, qui je la connais très bien, elle est quand même une certaine sécurité en Europe. Et elle va continuer avec ce travail de chancelier avec l'Europe. Mais peut-être ça donne aussi une possibilité pour la prochaine présidente de la Commission d'agir et donner un peu de leadership pour pousser l'Europe.
Emmanuel Macron voulait relancer l'Europe, c'était en 2017. Aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que la fenêtre de tir pour relancer cette construction européenne s'est refermée malgré tout.
Oui, parce que normalement, si on avance l'Europe, il y a trois phases. La première est une crise, donc on a besoin d'une crise. Le deuxième, c'est le chaos. Et le troisième, c'est une solution suboptimale. Donc, de lancer de l'Europe, c'est bien comme une vision, je suis pour. Mais enfin, c'est très très difficile de pousser quand on n'a pas de crise.
C'est la fin d'Ici l'Europe. Merci beaucoup, Alexander Stubb, d'avoir été notre invité.
Tout de suite, un nouveau rendez-vous d'information sur France 24 et RFI.
À très bientôt.